France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors que le mathématicien et député de La République En Marche, Cédric Villani, a rendu aujourd'hui son rapport sur l'intelligence artificielle et les possibilités incroyables pour l'économie française, nous avons donné l'occasion à une intelligence artificielle programmée sur notre ordinateur d'écrire l'introduction de cette émission. Alors voyons ce que ça vaut. Bonsoir, bienvenue dans Touche pas à mon poste sur France Info, votre émission de poète-poète et d'opinion sur le canal 27 du Minitel. Bon alors, c'est un début, hein, cette intelligence artificielle, mais je suis sûr qu'on va en tirer quelque chose de bien. Donc bravo à elle. Et eux, ils ont tout ce qu'il y a de plus humain, normalement, je crois. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le conseiller régional socialiste d'Île-de-France, François Calfon. Bonsoir.
Bonsoir.
Également, Jeannick Halimi, bonsoir, du Parisien aujourd'hui en France. Mathieu Delahousse, de l'Obs, bonsoir.
Bonsoir.
Et également, le communicant Guillaume Jubin, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, nous parlerons du Parti Socialiste, qui est un chef, si, pareil, de la SNCF, le combat de la paye. On parlera également d'Union Nationale, un étrange concept. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors verra-t-on un jour un procès de Paul Bismuth, hein? Selon son porte-parole Nicolas Sarkozy, rien n'est moins sûr. Oui, il est de retour, le plus beau pseudo de ces dernières années, Paul Bismuth et l'affaire des écoutes. C'est sous cette identité que Nicolas Sarkozy est apparu dans cette affaire où il lui est reproché d'avoir tenté d'obtenir en 2014, via son avocat, des informations secrètes auprès de Gilbert Azibert, alors haut magistrat à la Cour de cassation dans une procédure où il demandait la restitution de ses agendas saisis dans l'affaire Bettencourt. Voilà, ça rappelle beaucoup de choses. On l'a appris cet après-midi que l'ex-président de la République était renvoyé en correctionnel pour corruption et trafic d'influence suivant les préconisations du parquet national financier. Les avocats de Nicolas Sarkozy ont décidé de faire appel, mais cette affaire pourrait aller jusqu'au bout, selon le journaliste Gérard Davet.
Jacques Chirac n'était pas venu pour des motifs médicaux, Nicolas Sarkozy est en pleine forme, donc nous aurons, si jamais c'est validé comme tel, et il y a assez peu de chances que ce ne soit pas validé, en vérité.
Pourquoi ?
Parce qu'en règle générale, il faut des règles extrêmement strictes pour que l'appel soit jugé recevable et soit suivi des faits. Il n'y a pas de jurisprudence effective en la matière.
L'appel de ses avocats est classique, mais a priori, la décision est toujours suivie.
Oui, c'est rare que ce soit infirmé. Et donc, du coup, il a toutes les chances de se retrouver sur le banc des prévenus. Et c'est excessivement violent pour un ancien chef d'État.
Voilà, Gérard Davet, journaliste du Monde, tout à l'heure sur France Info. Mathieu Delahousse, pour vous, il pourrait y avoir véritablement un procès.
Gérard Davet le dit très bien, c'est quasiment une certitude, puisque là, la dernière procédure qui est lancée par la défense de Nicolas Sarkozy pour éviter l'audience a très peu de chances d'aboutir. Nicolas Sarkozy est en bonne forme, il n'y a pas d'immunité particulière sur la présidence, et en revanche, c'est effectivement l'affaire la plus encombrante. Pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy, il est en prise aujourd'hui avec 3 affaires, et il y a des affaires extrêmement compliquées à comprendre pour le grand public, et celle-ci, c'est la plus cruelle, parce que c'est la plus symbolique, c'est la plus simple, et j'allais dire, c'est la plus drôle. L'autre qui est enfermé dans les sables du désert libyen avec des complexités qui passent également par les eaux du Danube, il va être très difficile de montrer quelque chose que le grand public pourra comprendre, même si aujourd'hui il y a des indices graves et concordants qui ont justifié la mise en examen de la fois dernière. Mais cette fois-ci, le parquet national financier dans le réquisitoire qui demandait la mesure qui a été prise aujourd'hui, c'est-à-dire de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel, soulignait que les 3 personnes citées, Nicolas Sarkozy, son avocat et le magistrat de la Cour de cassation, avaient des méthodes proches de méthodes mafieuses, c'est-à-dire celles notamment des tocs, c'est l'utilisation de ces téléphones portables dont on avait retrouvé en partie enfermés ou cachés dans des peignoirs lors des perquisitions. Donc c'est une affaire non pas abracadabrantesque, comme aurait pu l'employer un ancien président, mais une affaire extrêmement lisible, et celle-ci, elle va arriver vite. Et il y a un autre détail qu'il faut souligner ce soir par rapport aux polémiques qui ont accompagné les affaires Sarkozy cette semaine, c'est que les magistrats qui ont renvoyé Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel pour cette affaire ne sont pas les 3 magistrats qui ont été cités dans l'affaire libyenne, mais d'autres magistrats, magistrates en l'occurrence, que Nicolas Sarkozy avait qualifié de 2 dames lorsqu'il avait été convoqué face à elle, nuitamment, après sa garde à vue.
François Calfon, il y a quelques jours, c'est vrai que Nicolas Sarkozy était mis en examen dans l'affaire d'un éventuel financement libyen, donc de sa campagne. Là, un renvoi en correctionnel, c'est vrai que ça s'alourdit, quoi, les dossiers.
Ça s'alourdit, et puis, pour le coup, on peut dire qu'il y a une forme d'indépendance de la justice. Pendant longtemps, y compris, certains ont pu le penser, une forme d'acharnement, puisqu'il a obtenu son non-lieu dans l'affaire Bettencourt. Mais là, il y a une forme de focalisation. Alors, indice grave et concordant. Moi, j'ai du mal là simplement comme commentateur, finalement, à garder mon sérieux sur l'affaire Paul Bismuth. Mmh. Il n'empêche qu'au milieu, il y a le souhait d'obtenir des informations sur une enquête en cours. Je sais, comme ça a été dit à ma gauche, que tout le monde ne comprend pas grand-chose au financement libyen. Mais si j'ai bien compris, les entourages de Nicolas Sarkozy ont eux-mêmes tenté d'obtenir des informations sur cette instruction-là. Donc c'est l'un des volants, hein, c'est pas le seul. Mais je crois que...
Dans le côté tentaculaire, je j'explique, c'est vrai que si les juges ont commencé à mettre Nicolas Sarkozy sur écoute, c'est à propos de l'affaire libyenne, je crois, Mathieu, au début. Hein.
Effectivement, en fait, tout s'emboîte et tout est très compliqué. Oui. Dans l'affaire libyenne, il y a une série d'écoutes téléphoniques qui sont lancées et à cette occasion-là, stupéfaction des policiers de l'Office central de lutte contre la délinquance fiscale et financière, ils découvrent qu'un haut magistrat de la Cour de cassation est en lien avec un avocat. Alors, par rapport à tous les secrets protecteurs qui entourent ces gens-là, on imagine à quel point ce dossier-là était incandescent.
Donc c'est le hasard, en fait.
On tombe finalement, à l'occasion de ces conversations, sur l'affaire Bettencourt, qui était encore une affaire à ce moment-là, qu'il ne l'a plus été rapidement pour Nicolas Sarkozy, puisqu'il a effectivement bénéficié d'un non-lieu. Et ensuite, on tire ça et on arrive sur une mise en examen qui est quand même pas anodine, puisque Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption.
Qu'il soit assuré, puisque je suis un homme politique sur ce plateau, qu'il soit assuré aux citoyens que les hommes politiques n'échappent pas à la justice. On l'a vu avec les ministres en exercice, Jérôme Cahuzac, maintenant ancien président de la République. Donc il y a quand même des choses qui avancent très nettement dans ce pays. Et j'ai même envie de dire que finalement, la masse des écoutes téléphoniques, c'est plusieurs milliers par jour qui sont autorisées sur le plan judiciaire. Nicolas Sarkozy n'a pas échappé, loin s'en faut, aux mailles du filet, hein, puisque c'est quand même un peu un point de détail, si j'ose ce terme, qui lui vaut ce renvoi en correctionnel.
Allez, on va continuer, on parle dans un instant, l'info à 20h10, Noémie Bonin.
Sans surprise, la Russie riposte aux sanctions coordonnées des États-Unis et de l'Europe. Moscou veut expulser 60 diplomates américains et fermer le consulat à Saint-Pétersbourg. C'est toujours la suite de l'affaire de l'ancien espion empoisonné. Lundi, environ 110 agents russes ont été expulsés de différents pays occidentaux. Nicolas Sarkozy conteste son renvoi en correctionnel dans l'affaire des écoutes. Il va faire appel. On a appris ce soir que les juges financiers ont signé l'ordonnance de renvoi ouvrant la voie au procès dans ce dossier pour des faits de corruption et de trafic d'influence. Nous ne sommes pas dans une affaire de terrorisme, affirme le procureur de Grenoble ce soir après ce qu'il s'est passé à Vars ce matin. Un automobiliste fonce sur des militaires dans cette petite commune iséroise. Le suspect interpellé a déjà été condamné à 25 reprises, mais aucune radicalisation n'a été remarquée pendant ces périodes de détention, selon le procureur. Le Conseil constitutionnel valide ce soir les principales dispositions de la nouvelle loi antiterroriste. Elle est en vigueur depuis le 1er novembre. C'est ce qui a remplacé l'état d'urgence. Ces mesures sont contestées notamment par la Ligue des droits de l'homme qui s'inquiète d'un risque de dérive. Et puis IBM va recruter 400 experts d'intelligence artificielle en France d'ici 2 ans. C'est ce qu'annonce ce soir le groupe informatique américain et l'Elysée, alors que l'État va consacrer 1,5 milliard d'euros à l'intelligence artificielle jusqu'à 2022, annonce d'Emmanuel Macron cet après-midi.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy était mis en examen dans un éventuel financement de sa campagne présidentielle avec la Libye. Ce soir, il est renvoyé en correctionnel pour une autre affaire, celle connue sous le nom de Paul Bismuth, hein, les affaires d'écoute. Guillaume Jubin, alors ce soir, contrairement à la mise en examen, il n'y a pas trop de réactions pour l'instant de la classe politique, notamment à droite. Au moment de sa mise en examen, beaucoup de son camp criaient à l'acharnement.
Oui, alors il y a une sorte de feuilleton qui s'est rouvert et d'une certaine manière que Nicolas Sarkozy a alimenté aussi lui-même. Il a choisi de se défendre plus devant les Français quasiment que devant la justice. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans son interview au début de la semaine sur TF1. On voit qu'il a choisi de prendre les Français à partie et de considérer que sa défense, il allait la faire face aux Français. La seule chose, c'est qu'il rouvre une séquence, il se remet au centre du jeu et d'une certaine manière, il remet aussi les affaires et son nom au centre du débat public et du débat politique. Donc c'est vrai que ce feuilleton-là, il l'alimente aussi, lui, d'une certaine manière. On parle aujourd'hui de ce qui a été annoncé aujourd'hui de cette décision. Il faut dire que ce qui s'est passé en début de semaine fait aussi qu'on en parle plus aujourd'hui. C'est un peu le revers de cette interview au début de semaine.
Yannick Adimi, est-ce que c'est embêtant pour la droite aujourd'hui représentée par Laurent Wauquiez, finalement, que Nicolas Sarkozy, une succession d'affaires
judiciaires. C'est embêtant pour Nicolas Sarkozy, bien évidemment.
Bien sûr, je voudrais
juste rappeler, vous avez raison, François Calfon, de dire que à travers tout ce qui se passe, ça prouve que les hommes politiques ne sont pas des hommes privilégiés, entre guillemets, et que la justice, en tout cas, fait son œuvre. Il faut dire aussi qu'il faut laisser faire la justice. Tout le monde, nous le rappelons tous, sont des affaires extrêmement compliquées. Et que même si Nicolas Sarkozy est mis en examen et renvoyé devant un tribunal, il faut encore que la justice passe.
Bien sûr.
Et tranche, d'ailleurs, il y a une autre affaire, ne l'oublions pas. L'affaire Big Malion, où il est également renvoyé devant les tribunaux. Ça, c'est une chose. Et Nicolas Sarkozy, qu'il soit condamné ou pas à la fin, ça va prendre des années d'enfer.
Hein, alors, est-ce que c'est pour vous...
C'est embêtant pour la droite, oui, bien sûr, parce que elle a perdu les élections, l'élection présidentielle à cause d'une affaire, le Penelope Gate, donc c'est embêtant tout ça. Elle a perdu quand même son rendez-vous avec les Français, puisqu'ils sont pas au pouvoir depuis, t'es pas au pouvoir depuis des années et des années, et avec quand même ce qu'était, ce que représente encore, ce que représentait il y a quelques jours encore Nicolas Sarkozy, un homme d'influence, le dernier chef de l'État de droite que la droite ait eu, si je puis dire, et que la France ait eu, c'est évidemment très ennuyeux pour la droite. C'est très ennuyeux quand même pour la vie politique française en général, même si c'est un effet retard. Mais je veux dire par là, c'est très ennuyeux pour la droite. Mais vous posez des questions tout à l'heure sur les réactions des Républicains. Elles vont être de plus en plus prudentes. Il y a Frédéric Lefebvre qui est un très proche, qui était un aficionado de
il a un
Nicolas
peu moins
Sarkozy.
Quand même, hein.
Un petit peu, mais enfin, quand même, il a sorti un livre récemment où il rappelait son attachement. Vient de prendre clairement et officiellement ses distances avec Nicolas Sarkozy.
Mathieu, il y a aussi une chose aussi, à l'époque de cette affaire, en 2014, certains se demandaient s'il y avait vraiment besoin de mettre un ancien président sur écoute. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Bien sûr, mais c'était une polémique considérable qui l'avait nourri, et celle-là, ça rejoint totalement ce que vous disiez tout à l'heure, c'était le fait, il y a deux matchs, il y a le match de l'opinion publique et il y a le match de la procédure, et Nicolas Sarkozy et ses avocats sont décidés, et c'est totalement leur droit le plus légitime, à jouer les deux matchs. On a vu à quel point sur TF1, Nicolas Sarkozy était le meilleur avocat de lui-même, avec beaucoup d'arguments, avec des formules très bien ciselées. Ses avocats également, et ça avait bien dépassé le seul cadre de Nicolas Sarkozy, avait réagi au moment de l'affaire, sur finalement, non pas l'immunité, mais le droit à ne pas être ciblé par des mesures d'enquête réservées à la grande délinquance. La philosophie aujourd'hui de cette affaire-là, c'est ça, c'est faut-il appliquer aux hommes politiques des méthodes qui jusque-là étaient réservées à la grande délinquance financière. Il y a un choc culturel que certains magistrats assument, que le parquet national financier créé après l'affaire Cahuzac assume, c'était encore une fois le cadre du réquisitoire du parquet national financier dans cette affaire-là. En revanche, effectivement, Nicolas Sarkozy était avocat, il a des mesures de protection dues à sa fonction et due à son métier par la loi. Et il a toujours dit, et c'est une formule que tout le monde devrait faire sienne, qui est de dire ne pas avoir plus de droits que les autres, mais pas de droits non plus.
C'est ça,
pas moins de droits non plus.
François Calfon.
Oui, pour aller dans le sens de ce qui a été dit, Nicolas Sarkozy a décidé de prendre l'opinion à témoin, y compris avec une part d'affect totalement assumée de sa part. Simplement, il y a quand même une petite inflexion qu'on a vue lors de son émission, son interview lundi, c'est qu'il a pris le soin de n'attaquer ni les policiers ni les magistrats.
Oui.
Ce qui est quand même une petite évolution. Alors, il parle tellement fort qu'on n'entend plus vraiment les mots. Mais c'est une inflexion qui, pour moi, est notable, puisque je vois qu'il sait maintenant qu'il n'échappera pas à ce marathon judiciaire, et y compris de renvoi devant les tribunaux sur des affaires beaucoup plus graves. Et peut-être que d'autres, je pense à Dominique Strauss-Kahn, je pense à Jérôme Cahuzac, avaient pris le soin, pour le coup, de ne jamais attaquer ni les policiers ni les juges.
C'est des affaires très différentes aussi.
Et privilégier la procédure plutôt
alors,
que...
Il a fait le choix juste une chose, c'était, c'est Kadhafi, c'est un règlement de compte du clan Kadhafi à l'égard de l'ancien président français.
Voilà, c'est vrai que c'était... Puis il y a une semaine, en fait, cette interview, non pas en début de semaine, je reprécise, mais c'est vrai que les semaines passent tellement vite en écoutant les informés de France Info, c'est assez incroyable. Donc on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir, en tout cas dans les prochains jours, pour la suite, donc de ce renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy. Il s'appelait Jean Mazière, Christian Medves, Hervé Sosna, trois noms pour trois victimes auxquelles un hommage a été rendu ce matin dans la ville de Trèbes. Tous les trois ont été victimes de l'attentat perpétré la semaine dernière. Et pour ce dernier salut, Édouard Philippe, Gérard Collomb et Nicole Belloubet avaient fait le déplacement avant de se rendre à Carcassonne pour la messe hommage au colonel Arnaud Beltrame. Le geste de ce dernier a fédéré une véritable émotion populaire dans le pays, alors que certains politiques accusaient le gouvernement de naïveté. Hier, autre moment aussi, avec la marche blanche pour Mireille Kroll, durant laquelle Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont été hués. Deux événements qui interrogent sur l'idée d'union nationale qui semble se déliter de plus en plus. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
Je le regrette, le Premier ministre l'a fait savoir publiquement. Il importe dans ces moments-là que la nation soit rassemblée sur ses valeurs, sur les valeurs de la République, sur les valeurs de solidarité, sur le fait que nous soyons une société ouverte, mais tout à fait déterminée à préserver ce qui fait le fondement de la nation.
Les déclarations du président du CRIF étaient inopportunes ?
Je porte pas de jugement. Dans ces moments de deuil pour l'ensemble des Juifs de France, je ne porte pas de jugement, mais je pense que
c'était inutile que
nous soyons rassemblés contre l'obscurantisme est l'essentiel.
Voilà, Jean-Yves Le Drian, ce matin sur RTL. Yannick Halimi, ce concept, Union Nationale, il existe ou c'est un concept pour les discours, comme on a pu voir Emmanuel Macron. On a vu que ça, peut-être au niveau populaire, elle existait, mais que dans les faits, on n'a pas l'impression aujourd'hui qu'il y ait une Union Nationale du tout de la classe politique.
Non, elle a duré quelques heures pendant, bien sûr, l'hommage national au colonel Beltrame, c'est vrai. Mais vous avez raison, quelques heures après le terrible attentat, on voyait la droite et l'extrême droite déjà critiquer l'action du gouvernement. Et je ne parlerai pas de ce qui s'est passé. Je pense que c'est un autre registre qui s'est passé pendant la marche blanche hier en hommage à Mireille Knoll. Mais non, enfin, je veux dire, on ne peut pas proclamer, Michel Crozier, le sociologue, disait on ne change pas la société par décret, on ne va pas changer un état de société qui est fracturé, qui était fracturé il y a un an, on le sait. La campagne présidentielle en a été le reflet. On ne va pas changer un claquement de doigts et surtout à la défaveur de morts ou même d'attentats terroristes qui devraient effectivement mobiliser la nation contre la barbarie. On ne peut pas changer une société fracturée parce qu'on a décidé pendant quelques heures qu'il y aurait une union nationale.
Ouais. Alors on continue à en parler dans un instant. L'info à 20h20, Noémie Bonin.
Le suspect de Vars possède un long casier judiciaire, 25 condamnations pour des faits de vol, de violence, de rébellion ou des infractions routières. Mais cet homme est complètement inconnu des services de lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'indique cet après-midi le procureur de Grenoble. Cet homme est soupçonné d'avoir foncé sur des militaires. Ce matin, il a été interpellé endormi dans la voiture. La mort très brutale d'une jeune fille à cause d'une méningite hier à Haute-Rive dans la Drôme. L'autopsie le confirme ce soir, rapporte France Bleu. Environ 80 personnes de son entourage sont encouragées à prendre un traitement antibiotique. Y aura-t-il un procès dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy? L'ancien chef de l'État est renvoyé en correctionnel pour corruption et trafic d'influence. Mais le chef de l'État fait appel de ce renvoi. Journée éprouvante pour Malala, de retour au Pakistan. Cette jeune femme, prix Nobel de la paix en 2014, a notamment rencontré cet après-midi des féministes pakistanaises. Âgée de 20 ans aujourd'hui, elle a quitté son pays d'origine en 2012 après avoir échappé aux talibans. Elle vit depuis en Angleterre, devenue une icône de la lutte pour le droit des filles à l'éducation. Sa visite au Pakistan doit durer 4 jours. Et puis un arbitre français va bien officier à la prochaine Coupe du Monde de foot. Clément Turpin est sélectionné par la FIFA aujourd'hui. C'est son premier mondial après avoir arbitré deux rencontres lors du précédent Euro.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'est une expression qui est revenue comme un mauvais souvenir presque, puisque elle date depuis janvier 2015, ce terme d'union nationale. Guillaume Jubin, elle existe aujourd'hui, comme le disait Yannick Halimi, c'est qu'une société fracturée aujourd'hui, elle est toujours fracturée.
Je crois que les Français plébiscitent l'union nationale, on l'a souvent vu, quand on parlait de gouvernement d'union nationale, par rapport d'ailleurs à d'autres gouvernements qui existent dans d'autres pays européens où il y a eu cette union nationale, les Français le plébiscitent souvent, mais les politiques sont incapables de le faire ou de le réaliser pour des raisons qui leur sont propres, mais d'une certaine manière ça ne s'est jamais fait en France, on n'a jamais fait un gouvernement d'union nationale,
mais
même si à beaucoup
juste,
de moments
juste,
ça a été plébiscité.
Souvient, après le 13 novembre 2015, on se souvient de François Hollande au Congrès, là il y avait une sorte justement, tout le monde respectait un certain délai.
C'est ce que je disais, c'est qu'il y a y a un moment, ça ne dure que quelques semaines ou que quelques mois. Au niveau politique, je ne crois pas qu'au niveau de la société française, il y ait une volonté, en tous les cas, de se diviser. Je pense que l'Union nationale existe.
Alors moi, j'ai rigoureusement une lecture inverse. Déjà, pour ma famille politique, nous n'avons pas participé à la surenchère. C'est une chose. Mais pour autant, ce terme d'Union nationale n'est pas... Il y a une France médiatique et politique qui finalement débat de ce terme, et puis il y a un pays réel qui a peur. Voilà, la réalité, c'est que l'Union nationale, dans les faits, elle est totalement... Je parle pas de la classe politique, je parle des Français. Ouais. Elle est totalement fracturée. Et moi, hier, j'ai entendu...
Vous étiez à la Marche Blanche, c'est ça?
À la Marche Blanche, mais aussi dans des contacts que j'ai pu avoir avec des citoyens, parce qu'ils m'interpellent sur le fait que nous nommons pas les choses. Et donc, si l'Union nationale, c'est de ne pas savoir nommer les choses, poser un voile pudique sur les choses, alors il y a un problème. Ils m'ont dit, ceux qui étaient à cette manifestation, Monsieur Calfon, nommez les choses. Et je leur ai répondu, parce que je crois que ça ne me pose pas de difficulté, que la cause du terrorisme, c'est l'islamisme radical et qu'il faut le combattre. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que il est attendu de la classe politique de la dignité, certes, mais aussi de la vérité. Je nommerai une deuxième chose, qui, pour le coup, va plutôt dans le bon sens. D'abord, un constat qui est très douloureux, et ensuite, quelque chose qui va dans le bon sens. Moi, j'étais au même endroit, finalement, à la même manifestation, il y a 10 ans, pour Ilan Halimi. D'accord? Et depuis, la communauté juive en France est attaquée dans une sorte de radicalisme du quotidien, qui mélange islamisme et petite délinquance. Il y a des faits épouvantables qui sont commis dans ce pays, et la justice tarde à reconnaître, pas cette fois-ci, le caractère antisémite de ces événements, dont on voit bien l'origine, j'ai dit, un islam radical lié à la petite...
La justice a déclaré tout de suite, quand même.
C'est la chose que je note comme une évolution positive dans, finalement, le constat que j'opère. C'est que, petit à petit, y compris dans le fonctionnement de la justice, on ne fait pas que nommer, on qualifie pénalement un certain nombre de choses. Car il y a urgence, je le dis nettement, il y a urgence parce que certains de la communauté nationale, parce que nous avons posé un voile pudique sur un certain nombre de choses, se sentent en danger.
Y compris au sein du Parti Socialiste.
Car je ne suis pas que commentateur, mais acteur. Mais c'est pour ça que j'ai souhaité nommer les choses ce soir.
Vous auriez pu parler de la France insoumise, qui a mis aussi un certain temps avant de dire les mots.
Je peux parler de la France insoumise et la réaction, c'est peut-être pas l'objet, mais déjà que moi-même, comme responsable politique, je puisse calmement, mais de façon tout à fait claire, nommer les choses.
Est-ce que justement l'Union nationale n'est pas un moyen de répondre à ces sujets-là?
Je n'y crois pas. Je crois que l'Union nationale est vécue comme un voile pudique du politiquement correct sur des situations...
Pour répondre au sujet que vous évoquez.
En tout cas, c'est ce qui a été évoqué, même parfois avec une certaine brutalité à l'endroit des élus socialistes hier, dans cette manifestation. Ils disent, vous jetez un voile pudique au nom de l'Union nationale sur des phénomènes, et nous, on a besoin que vous répondiez à notre peur, que vous nous rassuriez. Ça commence par nommer les choses.
Je parlais d'Union nationale au niveau d'un gouvernement
J'entends bien, mais je pense que c'est loin de la réalité vécue par les Français.
Si la question est celle de la clarté, ce qui est évoqué, effectivement, très vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le concept d'union nationale répond à une sorte de slogan politique face à un mal qu'il serait facile à nommer. Et techniquement, aujourd'hui, ce qui arrive sur le sol français, ce qui arrive par ces faits de délinquance, ce qui arrive par ces faits criminels, c'est ce qu'on appelle les hybrides. Et c'est des notions qui sont effectivement pas forcément faciles à comprendre dans l'opinion publique, avec un mélange de délinquance, un mélange d'antisémitisme, un mélange parfois, pas toujours, et il faut pas mélanger toutes les choses, mais aussi d'individus qui se radicalisent. Et tout ça, il y a un terreau, sans mauvais jeu de mots, qui est effectivement très inquiétant, mais qui est peu identifiable aux yeux du grand public. Et la difficulté qu'on a sentie, alors il y a la qualification de la justice, mais je pense que pour le coup, cette fois-ci, elle est malgré tout assez secondaire par rapport à l'émotion, qui est quand même le premier réflexe.
L'exécutif
mais
aussi a été clair hier.
Il y a effectivement
Emmanuel
une volonté
Macron.
De clarté, et Emmanuel Macron, il n'est pas clair depuis hier, depuis ces questions-là. Et Emmanuel Macron est clair quasiment depuis le début de son mandat. Il l'a dit le 9 juillet devant le Parlement réuni en congrès à Versailles sur l'ennemi collectif. Il l'a dit dans ses vœux aux forces publiques en disant que c'était un enjeu civilisationnel.
On lui reproche souvent de ne pas en parler de ça.
Je pense qu'il en a parlé. Enfin, je donne ces trois exemples parce que c'est des exemples que j'avais.
Aussi, à l'anniversaire du
fameux discours, vous savez, on parle de laïcité.
Non, c'est autre chose.
Oui, bien sûr. Mais ça veut dire qu'on a l'impression, de temps en temps, Emmanuel Macron, ce sont des sujets, touchy. On sait qu'en ce moment, il y a une place laissée par Manuel Valls, en effet, qui en parle énormément.
Parce que pour un homme qui vient de l'économie.
Ce sujet-là.
Une chose est sûre, c'est que le gouvernement aujourd'hui et depuis une semaine ne veut déjà qu'il n'était pas prêt à le faire, mais ne veut surtout pas sortir du bois sur le thème de la laïcité pour qu'il n'y ait pas d'amalgame entre un discours sur la laïcité, la place des religions au sein de la société et le terrorisme de l'islamisme radical. Ça pourrait être pour le coup extrêmement explosif de nommer les choses, mais de créer aussi des confusions dans l'esprit des gens. Alors, ça c'est sûr. Maintenant, la place de l'islam, la place des religions dans la société. Que faire de la loi de la laïcité, de la loi de 1905? Emmanuel Macron l'a susurré, l'a distillé. On lui demande d'être plus précis. Il va peut-être falloir qu'il le soit. Il n'en a pas envie.
Voilà, il n'en a pas envie, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, il avait un peu de mal pendant la campagne également. Allez, dans un instant, on va parler de la SNCF et aussi du Parti Socialiste. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Une belle histoire avec Business France.
Ma PME se développe beaucoup en Afrique et j'ai recruté des VIE. À l'export, il est important de trouver des jeunes avec des profils internationaux bien ciblés. C'est pourquoi je me suis tourné vers Business France. Et en plus, il s'occupe de la présélection des candidats et de tous les aspects administratifs. En 3 ans, j'ai eu 5 volontaires internationaux en entreprise et 4 travaillent encore avec nous. Une belle histoire.
Renseignez-vous 0810 659 659, coût d'un appel local ou export.businessfrance.fr. France Info Météo avec le CIC, banque de prêt d'une PME sur 3 en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Un temps agité demain le matin de la Bretagne et de la Normandie vers la Nouvelle-Aquitaine, l'ouest du Massif central. On aura des pluies parfois orageuses, du vent jusqu'à 80 km à l'heure, du Languedoc aux Cévennes, de la pluie aussi, soutenue sur le relief. Il restera du soleil sur un large quart nord-est, mais parfois voilé, notamment sur le bassin parisien. Il fera 1 à 10 degrés. L'après-midi, les averses s'étendront de la Normandie et du Pas-de-Calais vers la région parisienne, le nord-est, de la vallée du Rhône vers les Alpes et la Franche-Comté. Là, les pluies seront marquées avec de l'orage, du grésil, du vent fort, de la neige vers 1000 mètres. Ailleurs, on retrouvera des éclaircies très belles dans le sud-ouest. Ça se gâtera à nouveau en fin d'après-midi. Une dégradation orageuse arrivera par le sud de la Bretagne et les Pays de la Loire. Il fera souvent 9 à 14 degrés, jusqu'à 16 en allant vers le sud-ouest et 19 autour de la Méditerranée.
France Info. Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Hugo Charpentier, bonsoir.
Bonsoir, Nicolas Sarkozy, de nouveau sous le feu des projecteurs judiciaires. L'ancien président a été renvoyé en correctionnel dans l'affaire dite des écoutes. Il sera jugé pour corruption et trafic d'influence. Les juges du parquet national financier le soupçonnent d'avoir proposé de faciliter une promotion à Monaco d'un ex-avocat général à la Cour de cassation en échange d'informations sur une autre procédure judiciaire. Les avocats de Nicolas Sarkozy ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient faire appel de ce renvoi devant le tribunal. Nordal Lelandais a été reconduit dans sa cellule. L'ancien militaire de 35 ans est resté plus de 2 heures en compagnie des magistrats cet après-midi sur le col de Marocaz à Cruet. Ça se situe à une 20aine de kilomètres de Chambéry en Savoie. C'est à cet endroit précis que les ossements du militaire Arthur Noyer ont été retrouvés en septembre dernier. Rien n'a filtré de ce déplacement inattendu. Nordal Lelandais est l'unique suspect dans cette affaire. Il avait reconnu lors d'une première audition avoir pris en autostop le caporal Noyer le soir de sa disparition en avril 2017, mais il nie l'avoir tué. Une lycéenne de 16 ans foudroyée par une méningite, originaire de la Drôme, l'adolescente est décédée hier à son domicile. Un traitement antibiotique préventif a été proposé à ses proches, aux membres de son club sportif, ainsi qu'au personnel et aux élèves du lycée où elle était scolarisée. Nouvelle vague de sanctions russes annoncée par le Kremlin ce soir, en réponse aux dernières mesures de rétorsion prises par les Occidentaux dans le prolongement de l'affaire Skripal. La Russie expulse notamment 60 diplomates américains et décide de la fermeture du consulat des États-Unis de Saint-Pétersbourg à Moscou. Claude Bruyot.
John Huntsman, l'ambassadeur des États-Unis en Russie, a été invité au ministère russe des Affaires étrangères à Moscou afin de prendre connaissance des mesures décidées par le Kremlin, aussi bien en termes d'effectifs que de délais. Sans aucune surprise donc, la diplomatie russe, par la voix de Sergueï Ryabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères, a présenté aux diplomates américains les dispositions directement issues du principe de réciprocité, dont Vladimir Poutine en personne s'était prévalu il y a bientôt 2 semaines. Le consulat général des USA à Saint-Pétersbourg Saint-Pétersbourg va donc fermer ses portes très prochainement et obliger de nombreux ressortissants russes à se rendre à Moscou pour effectuer leurs démarches vis-à-vis des USA. Des démarches qui deviendront de plus en plus difficiles et compliquées en raison notamment des réductions d'effectifs côté américain. Aujourd'hui, par exemple, la sélection russe de lutte attendue aux États-Unis pour la Coupe du Monde de la discipline a vu ses formalités de visa tout simplement annulées par les fonctionnaires américains. Moscou, Claude Bruyau, France Info.
Cela avait été décidé lors des JO d'hiver de Pyeongchang. Le président du CIO est en visite en Corée du Nord. Thomas Barr est arrivé aujourd'hui à Pyongyang pour une visite historique de 3 jours. Les discussions porteront notamment sur la préparation d'athlètes nord-coréens en vue d'une qualification aux Jeux Olympiques d'été 2020. 20h33 sur France Info. La suite des informés.
20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils gigotent hein, sur les rythmes électriques de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le conseiller régional socialiste d'Île-de-France, François Calfon. Rebonsoir. C'est bien de se signaler en même temps, François. Janine Galimi, du Parisien, aujourd'hui en France. Également Mathieu Delahousse de l'Obs et le communicant Guillaume Jubin. Alors, c'est une des conséquences inattendues de la grève à la SNCF qui commence la semaine prochaine, si vous êtes francilien. Oui, vous pourrez peut-être monter dans la voiture de Valérie Pécresse. Et oui, la présidente de la région Île-de-France a annoncé ce matin sur France Info qu'elle s'était inscrite sur un site proposant ce service. Alors, si vous vous retrouvez avec Valérie Pécresse dans une voiture en plein embouteillage, ne paniquez pas. Hein. Elle est fan de téléphone, vous pourrez chanter ensemble « Je rêvais d'un autre monde », ça va être super en tout cas. 2 jours par semaine jusqu'à fin juin, voilà le programme. Les usagers s'organisent et la direction de la SNCF passe à l'offensive, notamment sur le décompte des jours de grève. En effet, Guillaume Pépi estime, je cite, que 18 fois 2 jours. C'est-à-dire 36 jours, c'est une seule et même grève contre la réforme du système ferroviaire. Et donc, les règles normales de l'entreprise s'appliquent. Ça veut dire que le groupe pourra ainsi considérer certains jours de repos comme jours de grève, donc non payés. Voilà. Du côté des syndicats, on n'a pas la même version. Tout le contraire, en fait, de la ministre des Transports, Elisabeth Borne.
Moi, je pense que les Français ont bien l'impression que c'est un mouvement global, un mouvement de grève qui est annoncé, qui est global. Quand on a 18 préavis qui sont déposés, on peut considérer que c'est un mouvement global.
Donc la direction a raison de compter de cette façon-là.
Écoutez, ben les règles s'appliquent normalement, celles qui sont prévues quand on a un mouvement de grève global.
Voilà, Elisabeth Borne, ministre des Transports ce matin sur Europe 1. Je précise juste, donc, là, du côté des syndicats, bien sûr, on a eu une réaction de Sébastien Mariani, le secrétaire général adjoint de la CFDT, qui a jugé, donc, très clairement contestable, hein, cette interprétation de la grève comme un seul et même mouvement qui conduirait à des retenues de salaire sur les jours de repos, alors qu'on a plusieurs préavis de grève successifs et différents. Vous comprenez, c'est une bataille entre la direction et les syndicats, François Calfon.
Pas la direction, le gouvernement. En réalité, Madame Borne agit quasiment avec une SNCF sous tutelle, vous venez de l'entendre. Non, la conclusion de cette affaire, c'est que comme ils n'arrivent pas à masquer qu'en réalité le problème de la SNCF, c'est d'abord le problème des 50 milliards de dettes, c'est d'abord le fait que les gouvernants ont fait n'importe quoi, tous confondus, hein, sur le tout TGV versus l'entretien du réseau, alors on cherche l'affrontement social. Et j'ai même envie de dire, j'ai entendu Monsieur Darmanin sur une autre chaîne avant d'arriver ici, que pensant que peut-être la mobilisation n'est pas à son plus haut niveau, je pense que le gouvernement cherche une victoire sociale dans le cadre d'un affrontement minoritaire par chaos pour montrer à quel point Monsieur Macron est déterminé. Moi, je trouve ça regrettable, car la SNCF est notre bien commun. Il y a des problèmes à la SNCF, pas de langue de bois, faut nommer les choses. Il y a déjà 10% des salariés de la SNCF qui ne sont pas au statut, donc c'est pas le problème principal. Hein, le problème principal, j'en donne un au passage ce soir, c'est sur la ligne Tours-Bordeaux, 7 milliards d'euros, c'est l'État à travers RFF qui paye plus de 5 milliards d'euros. Et c'est Vinci qui ne paye que 2,34 milliards avec une partie gagée par la Caisse des dépôts, c'est-à-dire encore l'État, mais c'est Vinci qui prend 100% des droits de péage, et on nous agite à l'envi le chiffon rouge, finalement, du blocage par les cheminots. Mais ceux qui tuent l'entreprise, ça coûte 200 millions d'euros à la SNCF, ces péages sur le tour de Bordeaux, même si les trains sont pleins. Ceux qui tuent l'entreprise, c'est la mauvaise gestion, et ce sont les responsabilités publiques, celles-là même qu'on veut faire taire.
Jeanne Calimi, là, c'est ce que fait Guillaume Pépi, là, c'est une réponse aussi à cette grève perlée sur 3 mois, là.
Bien sûr, chacun montre ses muscles, et effectivement, la tension monte avec, probablement, plus que l'imprimature du gouvernement, bien évidemment, on vient d'entendre Elisabeth Borne, voilà, avec... alors, il faut quand même remarquer, après on en pensera ce qu'on veut, que la concertation se poursuit, bien évidemment. Oui, je sais, bon, vous maugréez, il n'empêche.
Les ordonnances, c'est le signal contraire de la concertation. Non,
les ordonnances.
Je précise juste une chose, oui. C'est que tous les syndicats ont dénoncé le fait que cette concertation, en fait, c'était une simple explication de texte, selon leurs termes.
Bien sûr. Non, je maugré avec les syndicats.
Mais bien sûr, on verra demain, puisque les conclusions d'étape, si je puis dire, vont être rendues, effectivement, alors par Elisabeth Borne, voilà, puisque ça s'est fait aussi avec le gouvernement. On va voir ce qui sera sur la table. Maintenant, je ne suis pas sûre, tout de même, si je vous ai bien compris, monsieur Calfon, que le gouvernement cherche l'épuisement en faisant monter le niveau de tension.
Victoire par KO l'épuisement des autres, sur un deuxième front autres, social voilà. Après les ordonnances
sur le
travail.
Je pense qu'on est pour, on est contre. Il y a quand même une stratégie pour des raisons, la libéralisation du chemin de fer, le fait de croire fondamentalement qu'il ne faut plus qu'en France il y ait des statuts, et de façon économique également, on ne va pas rentrer dans cette polémique, il y a des frais supplémentaires qui alourdit et qui entrave la compétitivité de la SNCF, on en pensera ce qu'on veut. Je veux dire par là qu'il y a plus quand même un raisonnement pour lequel on est pour ou contre du gouvernement et de Pépi qu'une volonté de jouer à l'apprenti sorcier pour que les syndicats craquent.
Une chose, Guillaume Jumas, justement à propos de cette méthode Macron, cette concertation en fait finalement, là je le disais, la totalité des syndicats dénoncent le fait que cette concertation en ce moment n'était qu'une simple explication de texte avec quasiment rien à négocier. C'était la critique, d'après, d'ailleurs c'est peut-être Emmanuel Macron qui appelle, je ne sais pas, d'ailleurs, c'était la critique déjà faite au moment de la loi travail, que tout était déjà écrit et qu'il n'y avait rien à faire en fait derrière. Est-ce qu'elle est mise à mal, cette méthode?
Je pense que Emmanuel Macron, il déroule son programme, c'est-à-dire qu'il a un enjeu de réformer le pays assez rapidement pour montrer que son programme de réforme pour le pays fonctionne, qu'il se fait vite, et donc il le met en place et quelque part le résultat comptera plus que la méthode.
Oui, c'est ça. Mathieu Dehaus, vous, sur cette méthode justement de concertation.
Il y a fait une observation parce qu'on parlait de chimie ou d'alchimie. Ouais. Ce qui est très étonnant sur ce mouvement social-là, c'est qu'on rentre pour la première fois dans la grève prévisionnelle. C'est vrai que les syndicats avaient lancé dès le départ le fait qu'ils voulaient être sur une méthode innovante. On est sur un bras de fer innovant, mais effectivement assez étonnant. On sait dans les conflits sociaux qu'il y a parfois des échappatoires, notamment sur la façon de poser les jours de congé, les jours de maladie, les jours, etc. Là, on est sur quelque chose d'assez stupéfiant pour ceux qui regardent le mouvement, c'est-à-dire les usagers, par exemple.
Exactement. Donc, il faut juste s'organiser. Enfin, en effet, et c'est ça qui est compliqué, c'est que ça sera deux jours, dans la semaine. Et normalement, ça pourrait courir donc jusqu'au 28 juin.
Deux jours de grève, trois jours de travail.
Une chose, François Calfon, comment vous avez pris le fait d'être exfiltré du cortège la semaine dernière par les cheminots qui accusent le Parti socialiste d'avoir ouvert à la concurrence, selon le rail?
La démocratie, elle est ouverte à tous. Il y a des crispations, c'est jamais très agréable. Ça me pose pas de difficultés particulières, y compris parce que il y a eu un défaut de clarté dans la gestion de la SNCF, qui a commencé, je l'ai dit avant, qui a commencé sous la droite, qui a continué un tout petit peu sous ce gouvernement-là.
Ça a ouvert la concurrence quand même, enfin sous François Hollande en 2014.
Mais c'est un agenda européen, l'ouverture à la concurrence. Simplement, je veux faire remarquer à Yannick Halimi et à nos auditeurs et téléspectateurs une chose, c'est quand même que on pense que le sujet, c'est la mise en concurrence et le prix du TGV, mais c'est 15% du trafic SNCF, 90% du trafic de la SNCF, c'est le train du quotidien. Les trains en Ile-de-France, c'est 50% du trafic. Est-ce qu'on souhaite avoir un train Veolia, un train ceci ou un train cela, un Transilien le matin différent? Ça ne se passe pas comme ça. Et je vais vous révéler une chose. Il n'y a pas un système ferroviaire dans le monde, pas un seul, qui ait un équilibre économique par la simple billetterie. Ce sont des activités par nature subventionnées.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40. Yannick, s'il vous plaît. Yannick, on va continuer à en parler. N'inquiétez pas. L'info à 20h40, Noémie Bonin.
Les avocats de Nicolas Sarkozy vont faire appel de son renvoi devant le tribunal. On a appris ce soir que l'ancien président est donc renvoyé en correctionnel pour corruption et trafic d'influence. C'est dans l'affaire des écoutes. Il est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir des informations couvertes par le secret auprès d'un magistrat à la Cour de cassation en échange de services. Une banale affaire de violence, c'est la piste privilégiée par les enquêteurs à Vars. Ce matin, un homme fonce en voiture sur un groupe de militaires sans faire de blessés. Mais nous ne sommes pas dans une affaire de terrorisme, affirme le procureur de Grenoble ce soir. Ils ont une semaine pour quitter la Russie. 50 diplomates américains sont expulsés. Le consulat général des États-Unis à Saint-Pétersbourg doit être fermé. C'est la riposte de Moscou aux sanctions similaires décidées en début de semaine par les Américains et les Européens, notamment dans l'affaire de l'ancien espion Sergei Skripal empoisonné. Une marche pour la justice organisée demain à Montpellier au départ de la fac de droit, une semaine après l'expulsion brutale d'étudiants par des hommes cagoulés. D'ailleurs, la garde à vue de l'ancien doyen et de l'un des professeurs a été prolongée aujourd'hui. C'est la poursuite d'une certaine détente avec la Corée du Nord. Le président du CIO, Thomas Barr, est arrivé aujourd'hui à Pyongyang pour 3 jours. C'est la suite du dialogue entamé pendant les derniers JO d'hiver. L'idée, c'est de parler du développement du sport dans ce pays.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons du mouvement social qui va toucher la SNCF et il est parti pour durer, ça commencera alors. Normalement, peut-être les premiers trains lundi soir, mais en tout cas, ça sera mardi et mercredi prochain. Yannick Halimi, c'est vrai que la semaine dernière, lors de la journée de mobilisation de la fonction publique, la corporation des cheminots était celle qui avait le plus de grévistes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça risque véritablement
contrairement de... la fonction publique.
Ça risque vraiment de durer. Ce mouvement.
Écoutez,
une détermination, on le voit quand même.
Il y a une détermination et on verra. Il y a des éléments concrets sur la table. Encore faut-il. Alors, je pense que la SNCF ne peut durer, que le conflit à la SNCF ne peut durer, en tout cas la volonté de cette grève perlée ne peut se prolonger que s'il y a cette fameuse conglomérat, agrégation. Des mécontentements.
Alors, je dis juste mardi, il y aura les éboueurs en plus qui vont s'y mêler, il y aura Air France, des étudiants, voilà.
Le 3, le 4 avril, il va certainement avoir deux journées extrêmement dures. On a vu que la CGT appelait aussi les gaziers et les électriciens, qui peuvent avoir, eux, des impacts extrêmement précis et ciblés sur les entreprises, notamment, et sur le monde économique. Donc, mais pour le moment, je dirais, attention, c'est plutôt des conflits en puzzle, si vous voulez, parce que qu'y a-t-il en termes de revendications entre un pilote de ligne d'Air France et puis les cheminots ou une catégorie C de la fonction publique? Aucune. Qu'y a-t-il entre la réforme du statut, qui est quelque chose d'extrêmement structurant, grave et fondamental, avec des demandes de pouvoir d'achat finalement, d'augmentation de salaire, de rémunération, assez classique. Et dernier élément, il y a certes sur la SNCF une unité syndicale pour le moment, mais globalement, la CGT, pour ne prendre que les plus grands, pour FO, etc., la CGT et la CFDT ne sont pas sur la même longueur d'onde, globalement. La CGT veut élargir et nationaliser le débat, la CFDT veut rester sur des combats, pas corporatistes, mais particuliers.
D'ailleurs, il y aura des manifestations prévues auxquelles la CFDT fournira
en part. Et on n'a pas parlé des universités. Voilà, tout peut basculer.
Alors, Guillaume Jubin, juste une chose. Une grève, ça peut faire changer le gouvernement. C'est-à-dire que justement, le fait que ça soit long, il y a une bataille aujourd'hui de l'opinion, comme l'a dit François Calfon. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas les usagers qui disent on peut en avoir aussi assez et il faut que vous fassiez un geste?
Vous avez raison, la bataille de l'opinion pour le gouvernement, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que tant que le gouvernement sent que l'opinion suit le calendrier de réforme qui est voulu par le président, d'une certaine manière, les réformes vont continuer. Le gouvernement, en plus, s'est engagé sur l'ensemble des réformes. C'est un vrai marqueur pour Emmanuel Macron lui-même. C'est-à-dire qu'il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur sur ses réformes. Donc je pense que, comme il l'a dit, il ira jusqu'au bout. Et tant que l'opinion le suit, tous les signaux sont verts pour lui.
Oui, François Calfon, c'est ça. On voit quand même aussi des Français qui...
Je persiste à dire que l'agenda d'Emmanuel Macron est d'abord politique. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a... Il pense que la droite en a rêvé, il le fait. Et qu'en face, on en l'a dit tout à l'heure, il y a Laurent Wauquiez qui est quand même sujet à critique, et un Nicolas Sarkozy qui est une référence tutélaire et qui est quand même très abîmé. Donc je pense que c'est ça son... Et d'ailleurs, je le pense tellement que la question de la SNCF n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Il l'a rajouté ensuite. Enfin, sur la question de la convergence...
Il parlait de la SNCF, il parlait pas des ordonnances.
Oui, mais il n'a pas parlé des ordonnances.
SNCF, il parlait.
Or, ça devient une réforme majeure. Je persiste à dire que c'est pour des raisons politiques, d'agenda, de marqueur. Sur la question de la convergence des luttes, personne ne peut faire de la météo sociale. Souvenons-nous quand même que quand il y a ce type de phénomène, c'est que la jeunesse, quelque part, rentre dans la danse. Alors, je constate qu'il y a eu des réactions dans certaines universités face au phénomène de Montpellier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est pris très au sérieux. Et que si vous avez la jeunesse qui vient dans la rue, et elle vient toujours pour des raisons à la fois mineures et en fait qui traduisent un malaise général.
Notamment à Tolbiac ce soir, à la fac de Tolbiac à Paris.
Je vois des choses qui bougent. Alors maintenant, ma météo sociale a un peu vieilli autant que moi-même.
Mais non, pas du tout, François. Il ne faut pas dire ça. Mathieu Lehaus.
La météo sociale, en tout cas, est intéressante puisque si on regarde sur ces derniers mois les grands mouvements qui auraient pu fédérer cette action sociale, il y a eu une certaine façon des mouvements qui ont fait pchit en réalité. Les grands mouvements qui étaient rêvés, notamment sur la loi travail, n'ont pas eu lieu. Là, on a une perception très singulière, je pense, du mouvement à la SNCF. Si cette météo sociale venait à changer, elle viendrait pour le coup bouleverser totalement le calendrier politique d'un Emmanuel Macron qui sait que c'est maintenant ou jamais, ou en tout cas beaucoup plus compliqué plus tard.
Allez, il y a une météo aussi en ce moment, elle se passe à gauche, puisque vous savez qu'il ne faut plus appeler le PS Parti Socialiste, mais le Parti du Bon Gros Chat. Et oui, rien de désobligeant là-dedans. Hein, non, c'est Olivier Faure qui souhaite que le Parti Socialiste se dote d'une mascotte. Et oui, et ça sera un chat, a-t-il déclaré à Paris Match. Voilà, tout à fait sympathique. Alors une décision forte hein, pour celui qui ce soir gagnera l'élection pour désigner le futur premier secrétaire. Et là, vous vous dites, mais comment il sait qu'il va remporter le scrutin ? Le talent, le flair, le pif ? Eh ben non, tout simplement parce que c'est le seul candidat au deuxième tour. Alors, quel avenir pour le PS entre la France insoumise et la République en marche ? Comment s'imposer dans le débat politique ? Ce n'est pas simple, mais certains y croient encore, comme le perdant du premier tour de cette élection, Stéphane Le Foll.
La question est, qui est posée, c'est comment les idées socialistes et social-démocrates sont incarnées. C'est ça la question. Et moi, j'écrirai un texte avant le Congrès, justement pour essayer de porter ces idées. Après, le Congrès a décidé de qui serait premier secrétaire, et ça sera Olivier Faure. Mais moi, je continuerai un débat sur qu'est-ce qu'est la social-démocratie, qu'est-ce qu'est le socialisme français, quel est son sens aujourd'hui, et quelles sont les idées qu'on porte.
Stéphane Le Foll sur CNews ce matin. Juste une chose au départ quand même, François Calfon, parce qu'il faut en parler aussi. Le premier souci d'Olivier Faure, est-ce que c'est pas déjà la notoriété, véritablement ? Les Français ne le connaissent pas.
Alors je dis tout de suite que je n'aurai pas de chat dans la gorge pour vous répondre.
Hein, ça sera vous, est-ce que vous serez prêt à vous déguiser en chat d'ailleurs pour
Non, bah non, vous voyez, ce serait quand même un très gros chat, un type Garfield.
Écoutez, pourquoi
un
peu... pas ?
Ce serait un Ramin Agrobis.
Voilà. Est-ce que ça serait pas possible ? Est-ce que c'est pas ça le principal problème véritable d'Olivier Faure ? Les Français ne connaissent pas.
J'ai participé à ce Congrès, c'est ma famille politique. Je crois que le problème, c'est quand même beaucoup la rénovation des idées. J'ai entendu quatre genres de beauté. Moi, j'en ai soutenu une, mais il y a rien
qui... Vous aviez soutenu qui ? Excusez-moi.
J'avais soutenu Luc Carvounas. Parce qu'il souhaitait le dépassement des querelles du passé et que moi-même, les frondeurs et les Hollandais, je trouvais que c'était un peu suranné. Bon. Mais ceci étant, le vrai sujet, c'est... Il y a des colères, on vient d'en parler dans le pays. Ouais. Le métier du Parti Socialiste, sa fonction, son ADN... C'est bien sûr d'épouser ses colères, mais c'est de les traduire en utopie concrète.
Est-ce que vous pensez être crédible ? Je vous ai cité l'exemple tout à l'heure de la manifestation du 22.
Mais tant qu'on est simplement dans l'opposition, il y en a qui crient plus fort que nous. Donc ça ne marche pas. Bon, ça marche à partir du moment où le Parti Socialiste est encore une grande force territoriale. Et quand vous regardez certains sondages, y compris même ceux qui ne nous sont pas favorables, le PS ne s'effondre pas dans les territoires parce que les gens associent le PS à une soif d'égalité, mais aussi une capacité de gestion. Bon, ça veut dire que nous devons être présents sur des terrains, comme par exemple la question des données numériques, l'accès aux données, la protection des données, comme la révolution du travail. On a parlé d'intelligence artificielle. Monsieur Villani lui-même, je l'ai entendu sur vos antennes et ailleurs, dit... Le sujet n'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'usage social qu'on en fait. Comment ça détruit de l'emploi ? Comment on peut protéger l'emploi ? Voilà toutes les questions sur lesquelles on peut attendre le Parti Socialiste, c'est-à-dire de répondre par des propositions nouvelles aux nouvelles injustices qui apparaissent.
Allez, on va en parler dans un instant. L'info à 20h50, Noémie Bonin.
Un long casier judiciaire, mais aucune radicalisation remarquée. C'est le profil du suspect de Vars. Cet homme soupçonné d'avoir foncé en voiture sur un groupe de militaires ce matin sans faire de blessés. L'affaire est visiblement banale, éloignée du terrorisme selon le procureur de Grenoble. La liste des ennuis judiciaires s'allonge pour Nicolas Sarkozy. Il est renvoyé en correctionnel pour corruption et trafic d'influence. Cette fois, c'est l'affaire dite des écoutes. Les avocats de l'ancien chef de l'État annoncent qu'ils vont faire appel de ce renvoi. Nordal Lelandais a passé 2h30 cet après-midi à Crueil, en Savoie, sur les lieux où l'on a retrouvé le crâne d'Arthur Noyer, ce militaire mort il y a presque un an. Nordal Lelandais a reconnu l'avoir pris en stop. Il est soupçonné de l'avoir ensuite tué. Il est déjà mis en examen pour la mort de la petite Maëlys. Les sages disent oui. Le Conseil constitutionnel valide cet après-midi les principales dispositions de la nouvelle loi antiterroriste. Les recours concernaient notamment les mesures de contrôle administratif et de surveillance. Cette loi est critiquée par plusieurs associations. Et puis un hommage au gendarme Arnaud Beltrame prévu ce week-end sur les pelouses de foot en finale de la Coupe de la Ligue, mais aussi en Ligue 1 et Ligue 2. Aujourd'hui, les quatre victimes du terroriste de l'Aude ont été inhumées dans leur village d'origine. Un peu plus tôt, une cérémonie à Trèbes a rendu hommage aux trois morts civils, Jean Mazière, Christian Medves et Hervé Sosna.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, peut-être que dans la nuit, voilà, sombre et obscure, vous allez entendre un petit... Ouh, comme ça. Voilà, c'est tout simplement qu'il y a un nouveau premier secrétaire au Parti socialiste. C'est officiel. Il s'appelle Olivier Faure. Voilà, peut-être le connaissez-vous pas encore. Voilà, vous allez découvrir sa tête petit à petit. Il va occuper les plateaux télé et radio. Et Guillaume Jubin, Olivier Faure se définit, c'est lui-même, hein, comme le fils unique de Martine Aubry et de François Hollande. Alors ça, c'est le côté people solférinien. Donc, est-ce que c'est
vrai déjà?
Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est nouvel homme de la synthèse? Est-ce que c'est vendeur? Parce que on se souvient de la synthèse, c'était François Hollande. Est-ce que voilà, c'est...
Moi, contrairement à ce qu'on dit, je trouve qu'il bénéficie d'une conjonction assez favorable. D'une certaine manière, il a une notoriété à construire et le PS à reconstruire. Il part de zéro et d'une certaine manière...
C'est dur quand même, non?
Parce que... Oui, mais il a, vous l'avez dit, il a quand même une rénovation du parti à conduire, il a des idées à renouveler, il a peut-être même un staff à construire, et lui-même n'est pas connu. Quelque part, c'est peut-être plus facile de faire ce travail-là avec quelqu'un qui a tout à construire, une notoriété à construire, qu'avec une personnalité qui serait déjà chargée d'un héritage ou d'un poids du passé. Donc, d'une certaine manière, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour le Parti Socialiste que d'avoir quelqu'un qui a tout à construire dans les années qui viennent.
Oui, Jeannick Halimi, vous pensez aussi que c'est un avantage finalement de ne pas être connu?
Non, je dirais pas. Je dirais pas ça, peut-être, mais c'est pas ce sur quoi j'aurais basé mon argumentation. Moi, je pense quand même que ce qui est bien, c'est qu'enfin le Parti Socialiste est un chef. C'est déjà pas mal. Que deux, ce chef-là dise la première des choses qu'on doit faire, c'est travailler. Se mettre au travail, il l'a dit explicitement, hein, réfléchir, ce que n'avait pas fait le Parti Socialiste depuis qu'il avait quitté le pouvoir en 2002 et qu'il est revenu en 2012. Mmh. Voilà, il n'a pas travaillé, vous n'avez pas franchement réfléchi. Et vous n'avez pas franchement fait émerger une
j'apporterai doxa. J'apporterai ma nuance, si vous m'autorisez.
Voilà, bien sûr. Avec plaisir. Cela dit, avec bien évidemment. Par contre, quand j'entends Monsieur Calfon, quand j'entends encore
Stéphane Le Foll,
quand on attend de savoir ce que va faire Emmanuel Baumel, j'ai oublié son prénom, je vous prie de m'excuser, un des quatre candidats à la primaire.
Emmanuel Morel.
Morel, pardon. Je vous prie de m'excuser.
Mais en fait, Emmanuel Morel et Laurent Baumel sont ensemble. Donc vous avez
voilà, c'est ça, je vous prie de m'excuser.
Il n'y a que les enfants légitimes d'eux, si j'ai
bon,
bien compris.
Bon, excusez-moi.
Je ne sais pas si, voilà, c'est cette histoire.
Je me dis que la synthèse, même aussi molle ou aussi dure soit-elle, n'est pas franchement acquise. Et dernier point, le principal problème, je pense, sur lequel je ne sais pas ce que vous en pensez, François Calfon, doit se bâtir, se reconstruire le PS, c'est sa définition par rapport à l'Europe.
Et justement, alors
à l'Europe, c'est rebâtir, quand est-ce qu'on en entendra parler de ça?
Se rebâtir, on voit quand même, François Calfon, une chose aujourd'hui pour beaucoup de Français, la gauche, c'est la France insoumise, et qu'il y a entre la France insoumise et la République en marche. Est-ce que la République en marche, c'est pas le nouveau PS, comme on dit souvent?
Bah, écoutez, moi, je crois que quand même, hein, quand on supprime l'ISF, qu'on augmente la CSG, on n'est pas le nouveau
PS. Il y a beaucoup de chez vous qui sont partis chez la République en marche.
C'est vrai,
et pourquoi? Ils ont été séduits.
Ils sont assez déçus. Et je parle notamment de l'électorat, parce que les gens qui sont devenus députés sont forcément plus nuancés dans leur déception. Je crois que pour l'esprit du peuple de gauche, c'est relativement clair. Et les limites de Jean-Luc Mélenchon, on a vu l'histoire du média, on a vu l'histoire du soutien au Venezuela, font qu'il y a beaucoup d'hommes de gauche qui sont plutôt modérés. Pour répondre, parce que j'ai pas envie d'être dans le renvoi dos à dos de Macron, ça n'a pas de sens. Je crois pas que le Parti Socialiste ait besoin d'une synthèse molle, puisqu'en réalité, on a beaucoup travaillé, en fait, mais on a mis, et vous avez fini par une remarque qui était aussi une question, les questions qui fâchent sous le tapis. C'est ça le sujet.
Oui. Hein.
Et d'une certaine manière, ce congrès n'a pas réglé cela. Moi, je propose que nous abordions plus frontalement. J'ai tenté de le faire sur ce qui me semblait être le fait de nommer les choses, de problèmes en matière régalienne. Sur la question européenne, il va falloir que nous avancions. Est-ce que le Parti Socialiste peut se replier sur ses frontières, c'est-à-dire être sur un mouvement de déconstruction? La réponse est non, très clairement. Mmh. Est-ce que le Parti Socialiste peut prolonger comme un feu éteint en ravivant les flammes, l'idée du plus jamais ça et de Konrad Adenauer et de la première Europe? Je crois qu'il faut ouvrir lucidement les yeux et recréer un nouveau logiciel. Ça veut dire que les socialistes...
Qu'elles font.
J'en donne une seule remarque. C'est-à-dire que les socialistes ne vont pas pouvoir faire longtemps. Et toute la classe politique s'en considère qu'il y a un sujet sur les frontières, sur les migrants. Il ne faut pas que le PS détourne le regard dès qu'il y a un sujet qui, finalement, affronte son ADN ou ses convictions.
Mathieu Dehaus, quand vous entendez ça, justement, justement Olivier Faure. Pour vous, cet homme, je voudrais juste reprendre parce que pour expliquer aux Français qui sait aussi, voilà Olivier Faure, ancien président donc du groupe socialiste. Ouais. Pour vous, justement, ça peut être un avantage de ne pas être connu.
Non, mais il y a la question. Il y a la question d'Olivier Faure qui peut avoir un avantage. C'est celui de la nouveauté, parce que moi, je pense que le grand défi, mais ce n'est que mon avis, du Parti socialiste, c'est d'inventer sa musique aujourd'hui. Le Parti socialiste était soit un parti d'opposition, soit un parti de gouvernement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il sera ? À ma génération, au Parti socialiste, on entendait « Il changeait la vie » ou alors « Un autre monde ». Là, il faut que vous choisissiez la musique entre les refrains mélenchonistes et la petite musique d'Emmanuel Macron.
Ça sera moins vouloir être chat de Pauvreau. Ben, voilà, tout simplement. Voilà, en tout cas, voilà, c'est ça. Voilà.
On peut espérer. Est-ce que c'est l'international, ou l'hymne à la joie ?
Voilà, alors on verra. Allez, on verra. En tout cas, merci beaucoup. Ça va terminer les informés de France Info. Merci beaucoup, Guillaume Jubin, d'être passé. Merci, François Calfon également. J'ai Calimi, la une du Parisien aujourd'hui en France.
Oui, un petit pas de côté avec vivre en leasing. Vivre en leasing.
Très bien. Et la une de l'Obs, Mathieu Dehaus.
La une de l'Obs avec le visage d'Arnaud Beltrame, le héros de Trèbes. Qu'est-ce qu'être un héros ? Des révélations sur son parcours et des réflexions de philosophes sur la notion de l'héroïsme aujourd'hui.
À retrouver dans l'Obs.